morning edition from NPR News.
Let's see things on people, how see. Hey,
I'm ready to lose on a few parties.
Produce a guest on the radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Australie qui brûle que nous allons, qui brûle, ça vous le savez, mais un Premier ministre aussi qui a très chaud critiqué de toutes parts pour son retard à s'emparer de la catastrophe, mais aussi du réchauffement climatique, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est en Autriche avec la restitution de biens volés aux Juifs pendant la guerre. Grâce à une loi unique en son genre, ce travail colossal n'est pas terminé. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier qui vous parlera de Bobi Wine, le chanteur qui espère être président dans son pays, l'Ouganda. On parlera aussi d'inégalité en Grande-Bretagne. 18h50, pas son genre, et Julia Foyce. Nous sommes avec Michelle Williams au Golden Globes. Et Julia vous dévoilera aussi la date de l'égalité homme-femme selon l'ONU, et vous verrez, c'est dans le futur. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. On retournera en Autriche ensemble pour parler de cette coalition droite verte assez étonnante. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir David Camerou.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à Sciences Po. Vous êtes votre zone de compétence qui s'éloigne, qui va très loin, s'étend aussi jusqu'aux confins de la Nouvelle-Zélande et aussi de l'Australie. David Camerou, on a mis du temps à les voir, ces images, on a mis du temps à réaliser l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la catastrophe, alors que ces incendies durent depuis le mois de septembre. La prise de conscience, on a l'impression qu'elle est finalement assez récente. Est-ce que c'est pas ça le premier enseignement venu d'Australie, cette incapacité à mesurer ce qui était en train de se passer ?
Jusqu'au fin octobre, en fait, le nombre d'incendies était habituel, parce que les saisons des incendies... En général, au début de novembre, on a 15 000 incendies. Là, nous sommes actuellement à 80, 90 000 incendies. La dernière fois qu'on a eu des incendies, il y avait 60 maisons brûlées. Maintenant, 70 maisons. Maintenant, nous sommes à 1600. Donc, c'est l'ampleur qui est prise très, très rapidement, en fait, depuis un mois et deux mois. Et effectivement, ce qui est différent, en fait, cette fois, c'est que les incendies ne sont pas dans un seul État. Mm-hmm. C'est dans l'ensemble du pays. Or, l'Australie est un pays avec un système fédéral et la lutte contre les incendies, c'est la responsabilité des États. Il y a 70 000 pompiers volontaires dans l'ensemble du pays, mais c'est la responsabilité de chaque État. Et le Premier ministre Scott Morrison a un peu joué sur « c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des États ». Mais on se rend compte que c'est un problème national, et c'est plus qu'un problème national, c'est un problème existentiel. C'est ça. Il y aura maintenant un avant les incendies, il y aura un après les incendies en Australie. Ça, c'est un événement, une période marquante dans la vie de ce pays.
Et au fond, ce sera, je vais y mettre mille guillemets, hein, le seul effet positif, ce sera celui-là. Désormais, on n'attendra pas qu'il y ait une deuxième saison aussi effroyablement catastrophique que
non,
celle-ci.
Non, et on va, en fait... Il y avait déjà un mouvement de l'opinion publique sur les questions du changement climatique. Mm-hmm. Le dernier sondage de Lowy Institute, le sondage annuel, pour plus que la moitié des Australiens, le changement climatique, c'est la première menace pour la sécurité du pays. Et si on regarde les jeunes, 18 à 44, c'est 75%. Je ne parle pas des adolescents. Mm-hmm. Quand il y avait des manifestations des lycéens à Paris, je crois qu'il y avait 10 000. À Melbourne, il y avait 100 000. Mm-hmm. Donc, en fait, la prise de conscience était là. Les hommes politiques étaient en retard, surtout le Premier ministre, qui est un climat sceptique. Et là, on ne peut plus voiler la face par rapport à cette catastrophe.
Alors, on va y venir quand même à cet homme, à ce Scott Morrison. Vous l'avez dit, effectivement, il y a eu une vraie prise de conscience. Quand on regarde les sondages, il se passe des choses. Et en même temps, il est élu, lui aussi, sur ce climato-scepticisme. Le gouvernement précédent n'est pas tombé que pour ça, mais en partie aussi pour une volonté d'appliquer quasiment à la lettre les accords de la COP21.
Oui,
et à ce gouvernement, on a dit, non, il n'en est pas question.
Oui, non, tout à fait. En fait, l'image qu'on a de Scott Morrison, c'est au Parlement où il a amené un morceau de charbon, en disant « vous avez peur du charbon ». Et effectivement, il gagne des élections de justesse. Il a une majorité de 2 sièges. Et parce que c'était avant les incendies, c'est le mois d'avril. Mm-hmm. Et parce que, effectivement, dans le Queensland, il y a eu les compagnies minières, surtout un certain Palmer, a mis 70 millions de dollars dans une campagne contre les travaillistes. Et donc, ça a fait basculer les élections. Mais c'était de justesse. Et effectivement, ce qui, en fait, ces incendies sont en train de faire, politiquement, c'est que le clivage entre les bobos écologistes des grandes villes et le monde agricole est en train de se fondre. Mm-hmm. Et maintenant, il y a, disons, en train de trouver une unité autour de cette question parce que tout le monde est touché par ces incendies, y compris dans les grandes villes où il n'y a pas d'incendie, mais par exemple à Canberra.
L'atmosphère.
L'atmosphère à Canberra, le taux, j'ai téléphoné à mon beau-frère dimanche, il m'a dit à Canberra, on ne peut pas respirer. L'air était 20 fois le taux de pollution supérieur à ce qui est permis pour l'OMS.
Alors, ce que ça veut dire, ces incendies, on l'a déjà vu entendu, on va le réentendre grâce à Vérina qui vit aujourd'hui à l'hôtel dont la maison est entièrement brûlée, mais vous allez surtout entendre ce qu'elle dit après précisément et qui nous permet de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant et ce gap, cette différence qui s'estompe entre la ville et la campagne autour du réchauffement climatique. Elle s'appelle Vérina.
On ne voyait rien dans la fumée. Les hélicoptères et les avions ne pouvaient pas survoler la zone. J'ai emmené un paquet de céréales qui se trouvait devant moi. J'ai pris aussi quelques habits dans un sac et des biscuits. Et bien sûr, mes comprimés. Quand vous êtes une vieille dame comme moi, vous devez en prendre tous les jours. Mon sac était au milieu de la pièce, je l'ai attrapé et je suis partie. La plus grande menace, c'était les attaques de feu.
Et qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Oh, encore un hélicoptère, écoutez.
Il y a un hélicoptère qui survole la ville. Parce qu'il y a beaucoup de fumée.
No one knows. Well, mostly everyone's the same as me, and I don't think anyone's actually.
Pour la plupart des gens, ce ne sont pas des larmes qui sortent, c'est du chagrin qu'on ressent. Le chagrin, c'est pire que de pleurer, il vaudrait mieux pleurer.
It's a feeling of having lost all your personal things that identify you as a human being. Because it's not just your ID.
C'est le sentiment d'avoir perdu tout ce qui fait de vous un être humain. Ce ne sont pas juste vos papiers d'identité ou des papiers administratifs. J'ai eu 3 enfants. 2 d'entre eux sont morts. Et tout ce qui me restait d'eux, ce sont des photos et je n'en ai plus aucune.
Vous êtes fâché contre votre gouvernement?
Je ne peux pas perdre mon temps avec ça. Mais moi, j'ai conscience du climat. Vous savez, j'ai vécu ces 24 dernières années sans électricité, sans eau chaude, sans qu'on ait besoin de me dire qu'il fallait trier. C'est la responsabilité de chacun. Et je crois que certains politiciens ne comprennent pas ça. Je me pose des questions sur l'état de leur cerveau. Ils ne comprennent pas très bien. Je me demande sur l'état de leur
cerveau. Vous fait rire, les state of the brain, l'état de leur cerveau, Vérina, dont le témoignage a été recueilli là-bas en Australie par Gaëlle Joly. Ce qu'on décrit là, ce qu'on entend là, et cette impuissance totale, en fait, on a l'impression que c'est un excellent résumé de ce qui se passe en ce moment dans ce pays.
Oui, par hasard, j'étais à l'église Saint-Eustache dimanche dernier, et l'hasard veut que c'était le chœur de la cathédrale anglicane de Sydney qui chantait. Et ils ont chanté le Kyrie Eleison, Dieu have mercy. Et c'est la première fois que j'entends un Australien qui disait, Dieu avoir pitié de nous mm-hmm. et de demander aux gens de l'Église de prier pour. Et c'est la première fois dans ma vie que l'Australie demande la pitié.
Et alors, demande la pitié et aussi demande de l'aide. Et c'est ça peut-être aussi qui est très édifiant. Il y a eu cette phrase du Premier ministre Scott Morrison à un moment, on a toujours pris nos propres décisions. Donc on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de très contre-nature à dire autour, à dire à l'aide américaine, à l'aide canadienne, à l'aide française ouais. qui vient là, et aux réservistes de dire au secours, on s'en sort pas.
Oui, il y a cet aspect d'une espèce de fierté mal placée. Mm-hmm. Jusque cette année, l'équipement en place et les nombres de pompiers étaient suffisants pour maîtriser les feux. Mais Scott Morrison, le gouvernement, n'a pas pris l'ampleur des choses. Morrison a refusé, par exemple, une demande d'une union des chefs des pompiers au mois d'avril, qu'il voulait le prévenir. On savait qu'après une sécheresse terrible, quand on avait des risques, il refusait de les recevoir. Il a refusé d'acheter 6 avions, je crois, supplémentaires contre de lutte contre les incendies. Donc, une espèce de nonchalance et indifférence. En plus, il est parti en vacances.
À Hawaï.
Et donc, et vous avez maintenant à Sydney et dans les grandes villes, les affiches avec le mot missing, manquant en action, mm-hmm. avec Scott Morrison en chemise hawaïenne. Donc, c'est vraiment, il est devenu un peu le cible, un peu à raison, mais un peu malgré lui, par ce déni, en fait, du rapport entre le changement climatique et le fait que tous ces phénomènes qui arrivent toujours sont exacerbés.
Et alors, est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est les conservateurs australiens d'une manière générale? Est-ce que c'est lui qui a pas compris? Est-ce qu'il y avait quand même des gens pour lui taper sur l'épaule en lui disant « Scott, tu te trompes là, il faut regarder, attention à la sécheresse ».
Le parti libéral, centre-droite, est divisé sur la question. Mm-hmm. Il y avait un ancien premier ministre, Malcolm Turnbull, qui lui n'était pas climosceptique, qui était viré justement, mm-hmm. et c'est l'aile droite climosceptique qui a pris le pouvoir. Mais on voit les choses sont en train de bouger. Le mouvement des jeunesses du Parti libéral a voté une motion en disant il faut qu'on maintenant on prenne en compte sérieusement un vrai projet, une vraie politique pour lutter contre le changement climatique. Donc les choses sont en train de bouger, mais c'est vrai qu'ils représentent une espèce de un peu comme
le vieux monde ou pas?
Le vieux monde de cette vieille Australie confortable. Mm-hmm. Et il a fait un discours hallucinant le 31 décembre en disant l'Australie c'est le pays le plus merveilleux mm-hmm. pour élever des enfants. Bon. OK, mais le pays est en train d'être détruit.
Ouais, il a aussi lancé un feu d'artifice qui n'est pas forcément l'idée la meilleure quand la moitié du pays est en train de brûler.
Oui, ce n'était pas sa responsabilité.
Non, mais, certes. Mais
effectivement, il y avait des symboles, en fait. Et le fait qu'il réagit tardivement, mm-hmm. et maintenant, il réagit d'une façon qui est perçue comme un peu cynique. Il met sur sa ligne comme une sorte de publicité avec les réservistes. Mm-hmm. C'est pour ça que quand il est allé visiter la ville de Cobago, on a insulté parce qu'on savait qu'il était là uniquement pour les raisons de publicité.
Mais alors, vous l'avez dit, l'élection, elle est très très récente, ça date du mois d'avril. Néanmoins, est-ce que politiquement, il est en danger, ce monsieur, après ça ou pas?
Dans les mois à venir, je pense que oui, parce que les Verts au Parlement ont demandé une commission royale sur la responsabilité, qui n'a pas fait quoi, mm-hmm. ce qu'il fallait faire. Le Parti libéral n'est pas tendre avec ses leaders si les autres membres du parti voient que dans quelques années, ça risque d'écouter le siège. Mm-hmm. Tout dépend en fait des indépendants au Parlement et au Sénat, parce que le gouvernement ne contrôle pas le Sénat et les Verts ont 8 sénateurs avec les travaillistes, ils peuvent faire basculer les choses au niveau du Sénat.
Alors, et tout dépend aussi peut-être de ce qu'il fera dans les prochaines saisons aussi sèches, et s'il aura compris cette leçon-là. Pour évaluer un tout petit peu, on l'a déjà déjà beaucoup dit, 80 000 km², c'est la surface de l'Irlande, c'est complètement... c'est hallucinant quand on y songe, 24 morts, des millions d'animaux morts. Est-ce que déjà on chiffre, je repense à notre ami Vérina qu'on a entendu tout à l'heure, il va falloir reloger ces gens, il va falloir en indemniser pour une partie. Est-ce que déjà on sait chiffrer ces choses-là, on sait ce que ça coûte ces incendies?
On sait qu'il y a un demi-milliard d'animaux qui sont morts, et ça on ne peut pas vraiment le remplacer. Il y a des animaux qu'on trouve qu'en Australie. Ouais. Donc ça c'est une terrible.
Et les survivants qui auront du mal d'ailleurs, puisque leur habitat est complètement détruit, voilà, les kangourous, les koalas, etc.
Voilà, et d'autres animaux beaucoup plus rares, en fait, qui sont... Donc, le gouvernement, je crois que le premier 2 milliards de dollars australiens pour construire les maisons, ça, c'est la partie qu'on peut un peu chiffrer. Ce qu'on ne peut pas chiffrer, par exemple, c'est à cause de la pollution, parce qu'on parle des 24 morts, mais il y aura des centaines, peut-être des milliers de morts prématurés à cause des particules fines qui sont là depuis des semaines, c'est des mois.
Là aussi, on voit dans les images, on voit que les gens se protègent avec des masques, mais ça paraît tellement dérisoire de se protéger avec un masque quand les taux de pollution sont effectivement 10, 15, 20, 50 fois supérieurs au seuil de danger même.
Oui, non, c'est du manque de préparation parce que personne n'a prévu un problème de cette ampleur au niveau national, c'est l'aspect. Et également, je crois que une attitude que, en dernier lieu, on a toujours fait face à ces problèmes et on va s'en sauter. Mais cette fois, je dirais, je pèse mes mots, c'est une crise existentielle, parce que dans l'imaginaire australien, la nature est l'Australie. Mm-hmm. C'est pas les monuments, c'est cette nature dure mais magnifique. Mm-hmm. Et le voir détruire, c'est aussi voir un peu de soi-même détruire.
C'est aussi ce que vous ressentez, vous, quand vous y pensez, vous, David Camus, c'est des endroits que vous connaissez, c'est des endroits où vous êtes allé, c'est des endroits, enfin je veux dire, votre beau-frère est encore là-bas, vous y avez passé des vacances. J'imagine que ça résonne très différemment, y compris le chercheur que vous êtes.
Oui, ça m'a mis en colère et en larmes, parce que c'est vrai que c'est l'innocence d'une enfance qui je vois détruire en ce qui me concerne. Le fait que l'Australie c'est loin du tout, donc on n'a pas d'ennemis. Et voilà, est-ce que c'est une punition de Dieu? Le problème de Scott Morrison, son problème de fond, c'est que c'est un évangélique convaincu. Et comme Donald Trump, les gens qui pensent c'est Dieu, et pas les électeurs qui l'ont mis à cette place, je me méfie énormément.
Et Dieu qui, théoriquement, va nous régler tout ça en deux temps trois mouvements, c'est aussi un peu ce qu'il a au fond, quelque part dans la tête, Scott Morrison?
Oui, un de ses députés a dit que c'est peut-être la punition de Dieu, en fait.
Ce qui ne va pas aider pour lutter contre le réchauffement climatique. Juste un dernier mot. Alors, économiquement, là aussi, c'est extrêmement difficile à chiffrer pour l'instant, mais je pense aux industries, je pense au tourisme. Enfin, je veux dire, c'est aussi un pays de tourisme, l'Australie.
Oui, je n'ai pas vu de chiffres, honnêtement, pour l'instant, sur les coûts. C'est un pays riche qui peut se rebondir avec le temps. Mais on dirait, pour les forêts, il faut au moins 10 ans pour que les forêts se retrouvent à leur état précédent.
Et on va le rappeler, c'est pas fini, puisque la saison très sèche et très dangereuse est loin d'être finie Australie pour l'instant.
Jusqu'au mois de février et mars.
Merci beaucoup, David Camerou. Merci de nous avoir raconté cette crise existentielle. Vous le disiez, je retiendrai cette phrase de l'Australie en ce moment. Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est en Autriche qui restitue encore des biens volés aux Juifs pendant la guerre. Une opération colossale qui se poursuit donc aujourd'hui encore. Le bruit du monde, toujours avec Amélie Perrier et Bobby Wine. Amélie qui veut être candidat dans son pays, pas chose facile.
Ouais, vous savez, Bobby Wine, c'est ce chanteur et député et géré toute la jeunesse en Ouganda et effectivement, il vient de se faire arrêter une nouvelle fois.
Et c'est très grave. Pas son genre. Et Julia Foyce, il y en a quand même des bonnes nouvelles sur le front du cinéma aux États-Unis, Julia.
En fait, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais ça l'est pas tant que ça. Enfin, on va dire pas mieux faire.
Voilà. Ouais. Eh ben, à tout de suite alors. Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir. Avec l'Autriche. Vous aussi, mais alors là, avec une coalition très inédite, droite
mais
et
left. Mais oui, la droite va y gouverner avec les écologistes. Et si cette alliance iconoclaste était prémonitoire?
Ah bah, point d'interrogation, donc ça s'appelle la fin de votre phrase. Je vous remercie de m'aider. Non, non, ça m'aide vraiment à aller à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète passe par la Grande-Bretagne avec Propellerhead, History Repeating, ça se passe sur France Inter.
The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Le bruit du monde ce soir est en Autriche, pays longtemps critiqué pour son travail de mémoire tardif, malgré sa participation aux crimes nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'Autriche fait figure de modèle sur la restitution des œuvres d'art pillées par les nazis. Une loi unique en son genre aide à ce travail colossal. Et c'est ce que nous raconte Isorias.
La loi de 1998 a créé en Autriche une commission spéciale qui rassemble une dizaine de chercheurs chargés d'enquêter au sein des collections publiques du pays afin d'identifier les œuvres et objets d'art spoliés par les nazis pour les restituer. Leonhard Weidinger est l'un d'entre eux. Il travaille au MAC, le musée des arts appliqués de Vienne, qui abrite de riches collections de meubles, d'argenterie, de tissus et d'objets en verre ou en porcelaine.
Nous faisons de la recherche proactive, principalement sur la période 1938-1945. Cela veut dire que nous n'attendons pas que quelqu'un vienne réclamer quelque chose, mais nous inspectons nous-mêmes nos stocks et nos collections. Nous essayons de déterminer la provenance de chaque objet, savoir à qui il appartenait avant d'être acquis par le musée et quelle est son histoire.
Les collections qui furent volées durant la guerre aux familles juives renommées comme les Rothschild ont déjà été restituées par le MAC car il y avait beaucoup d'informations les concernant. Mais pour d'autres œuvres présentes au musée, il y a très peu d'indices. C'est sur celles-ci que Leonhard Weidinger travaille aujourd'hui.
Beaucoup d'objets ont été produits en série, la porcelaine notamment. Par exemple, je trouve parfois dans notre inventaire la description d'une tasse, mais il peut exister 2, 3 ou 5 tasses, comme celle-ci. Impossible de savoir. Il faut alors essayer de trouver des photos au sein des archives du musée, ou, quand c'est possible, des photos de la collection telle qu'elle était chez les propriétaires, avant la période nazie. C'est pour cela que ce travail demande beaucoup d'efforts.
« Ces chercheurs ne travaillent pas pour les musées, mais bien pour la commission, et leurs recherches sont examinées par un conseil qui décide s'il peut y avoir ou non restitution. C'est là la garantie d'indépendance qui a permis, en 20 ans, de restituer 62 000 objets et œuvres d'art, des tableaux de maîtres aux objets du quotidien.
J'ai connu le Troisième Reich, censé durer 1000 ans, mais moi, je vis toujours.
Hannes Drexler est né en 1935. Cet aimable grand-père de 84 ans a été contacté en 2000 pour une restitution, à sa grande surprise. Plusieurs exemplaires du chic parisien lui ont été remis. Des magazines imprimés à la maison d'édition fondée par sa famille, qui en fut expropriée lors de la Seconde Guerre mondiale. Un véritable déclic pour lui.
Des émotions.
J'ai ressenti une émotion très étrange en les recevant, car cela m'a donné une envie de me replonger dans l'histoire de la famille de ma mère. Et d'un coup, un monde s'est ouvert devant moi. Un monde qui allait de la Pologne à l'Angleterre en passant par la Suisse. Ces magazines de mode sont pour moi émouvants, car ils m'ont amené à réfléchir à la manière dont vivait ma famille à l'époque. Et cela a pris de plus en plus de place dans ma vie. Ce n'étaient pas seulement des magazines de mode, mais des personnes qui m'apparaissaient soudain.
Ce travail de restitution est salué par l'IKG, l'organisation qui représente les Juifs d'Autriche, pour laquelle travaille Erika Jakubowicz. Un immense travail est fait pour inspecter les collections publiques, reconnaît-elle. Mais il faudrait aussi ouvrir le débat sur les œuvres spoliées qui sont aujourd'hui la possession d'institutions et de personnes privées.
On ne peut évidemment pas faire de loi pour la restitution d'œuvres possédées aujourd'hui par des entités privées. Personne ne serait d'accord et ça pourrait être très injuste. Mais on peut sensibiliser sur ce thème afin que les collectionneurs privés viennent d'eux-mêmes et disent « J'ai quelque chose dans ma collection, mais je ne suis pas sûr de sa provenance. » Ce serait déjà bien et ce serait très important.
Au niveau international, les spécialistes estiment qu'environ 100 000 œuvres d'art volées par les nazis n'ont toujours pas été retrouvées.
Isorias, pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, ça donne quoi ? Le bruit du monde avec vous ce soir, Amélie, c'est celui d'une arrestation, c'est ce qu'on entend là. On
Exactement.
Est en Ouganda, l'arrestation d'un député qui est aussi star de la musique.
On vous en a déjà parlé ici, Bobby Wine, l'artiste de 37 ans, coiffé de son béret rouge. Il est devenu l'opposant numéro 1 du président Museveni dans ses chansons, notamment, vous entendez derrière moi. Il a commencé par dénoncer la corruption, donc, dans ses titres, et puis sur scène, devant des foules de fans, et il a fini par se faire élire député il y a 2 ans, devenu porte-parole d'une jeunesse ougandaise, souvent urbaine, souvent pauvre. Il a déjà eu affaire à la police de nombreuses fois, hein, et il accuse également les forces de l'ordre de l'avoir torturé en détention. Et aujourd'hui, il est en pleine campagne pour la présidentielle qui se tient l'an prochain. Hier, en route pour une réunion publique, il a été arrêté par la police, donc avec son équipe de campagne, officiellement pour rassemblement non autorisé et désobéissance. Il a été incarcéré plusieurs heures avant d'être libéré. Il l'annonce lui-même, hein, sur son compte Twitter. Il écrit « Comme d'habitude, ces lâches nous ont relâchés en pleine nuit. Ces injustices illégales ne font que nous rendre plus forts. Mais surtout, nous révèle à quel point le régime a peur de nous le peuple en lettres capitales. Candidat à la présidentielle, Bobby Wine veut surtout changer un système vieillissant et corrompu. On ne brigue pas seulement la présidence en tant que telle comme une fin en soi, dit-il. On sait surtout aujourd'hui que le problème est celui de la mauvaise gouvernance. C'est la question de la gouvernance que nous voulons résoudre et on ne peut pas la résoudre tant que l'on n'arrive pas au pouvoir. Car aujourd'hui, à la tête de l'Ouganda, le président s'appelle Yoweri Museveni. Il a 75 ans, il est au pouvoir depuis presque 34 ans. Une majorité d'Ougandais n'ont connu que lui comme chef de l'État. Et la constitution a récemment été modifiée pour supprimer l'âge limite pour se présenter à la présidentielle. Il brigue donc un 6e mandat.
Les inégalités de richesse, une réalité également très près de chez nous, évidemment, au Royaume-Uni par exemple.
Savez-vous ce que l'on appelle de l'autre côté de la Manche le Fat Cat Day ? Je vous donne un indice.
Mais n'importe quoi.
Oui, ce sont des chatons. Rien que pour vous, Fabienne, je sais que vous attendez ça avec impatience. Mais non, le Fat Cat Day n'a rien à voir avec des chats. On le traduit d'ailleurs par journée des gros poissons ou journée des gros bonnets. C'était hier, lundi, troisième jour ouvré de l'année. Vous enlevez le premier férié et le week-end. C'est le jour, en fait, où les grands patrons britanniques ont déjà gagné l'équivalent de la paie annuelle moyenne d'un salarié. En trois jours, les DG des plus grandes entreprises gagnent un an de salaire, c'est-à-dire que leur rémunération est 117 fois plus élevée que celle des 117 fois plus élevée que celle des salariés. Encore quelques chiffres pour bien se rendre compte. Au Royaume-Uni, un salarié gagne en moyenne l'équivalent de 34 700 euros. Un grand patron perçoit plus de 4 millions d'euros, chiffre de 2018. Et cette année, les associations qui dénoncent ces écarts abyssaux comptent sur une nouvelle loi. Les entreprises britanniques de plus de 250 employés vont être obligées en 2020 de publier les cartes salaires entre le directeur général et le salarié moyen. Une problématique dont les conservateurs de Boris Johnson se sont emparés. La ministre des entreprises vient de qualifier les écarts de revenus de choquants et le salaire minimum va être augmenté en avril.
Allez, on termine avec un air de samba pour le carnaval de Rio.
Alors on s'y prend un petit peu tôt cette année car en fait il ne commence officiellement que le 21 février mais certaines ont décidé de l'inaugurer ces derniers jours avec une parade officieuse bien particulière. Vous reconnaissez cet air, hein ? Je vous en ai déjà parlé.
Absolument, on parlait de Chili à l'époque.
Exactement, c'est un hymne féministe. On l'avait repéré au Chili fin novembre dernier. Des dizaines, parfois des centaines de femmes entonnent « Un violeur sur ton chemin », c'est le nom du titre. Le refrain dit « Le coupable n'est pas ce que tu portes ou là où tu te trouves, le violeur, c'est toi ». C'est le refrain chanté ce week-end par une parade à Rio, au Brésil. « Le carnaval, c'est notre voix de combat », dit la présidente de ce groupe de carnaval de rue. Le Brésil est parmi les pays où les féminicides sont les plus nombreux au monde. 4 femmes tuées chaque jour en moyenne. Alors si le carnaval et la samba peuvent aider à lutter contre ce carnage.
Et bien voilà qui nous emmène directement chez Julia Foyce, mais qui devra patienter et attendre le Canadien Patrick Watson, s'il vous plaît. Dream for Dreaming, et à tout de suite.
This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream never thought you would leave. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were dreaming? Thank you.
Fini de rêver, Patrick Watson, s'il vous plaît. Mesdames et mesdames et autres genres, Julia Foy, c'est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Je dis, on peut rêver avec moi.
Oui,
aussi,
c'est, pardon, oui, je ne comprenais pas ce que vous disiez. Bah, si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sinon, Julia, chaque semaine, oui, normalement, vous êtes là pour nous donner des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec deux prises de parole fortes.
La première nous vient d'Espagne, pays décidément fascinant, paradoxe, hein, une base catholique très forte, une église puissante, une extrême droite qui faisait il y a quelques mois à peine son entrée au Parlement et des politiques volontaristes toujours très progressistes en matière de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes. Dernier exemple en date, le discours d'investiture de Pedro Sanchez, leader de la coalition au pouvoir, c'était en toute fin de semaine dernière devant le Parlement.
L'égalité ne signifie pas l'uniformité. Au contraire, pour être pleinement égalitaire, il faut reconnaître l'égalité des droits pour toute singularité. C'est pourquoi nous revendiquons à tout moment la fierté de la diversité et le droit à la différence. Nous adopterons une loi globale pour l'égalité de traitement et de non-discrimination. Nous adopterons une loi contre la discrimination des personnes LGBT, y compris l'interdiction nationale des prétendues thérapies d'inversion.
Prétendu ou mal nommé, hein, les thérapies de conversion, parce qu'on va peut-être pas revenir là-dessus dans le détail, Fabienne, mais en gros, dans la mesure où l'orientation sexuelle n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une religion, on voit pas bien comment ou à quoi on pourrait se convertir, sauf que ses promoteurs, la plupart du temps issus de milieux fondamentalistes chrétiens, en sont convaincus et promettent de ramener les brebis LGBT égarées sur le droit chemin de l'hétérosexualité à grands coups d'électrochocs et de séances d'exorcisme, tu parles d'une thérapie. Aux États-Unis, 700 000 jeunes gays ou lesbiennes auraient eu à subir ces lavages de cerveau d'une violence inouïe. En Europe, seule Malte les a à ce jour interdits. Mais l'Allemagne étudie actuellement une proposition de loi en ce sens. Et chez nous, en France, après 3 mois de consultation, une mission parlementaire a rendu ses conclusions avant les fêtes. Elle propose de créer une infraction spécifique dans le code pénal et une condamnation dans le code de santé publique. Ça bouge aussi du côté des États-Unis et d'Hollywood, plus précisément.
Alors oui, il y a comme un vent qui souffle hein, là-haut sur la colline depuis 2 ans, depuis MeToo, comme un monde qui s'effrite doucement, sûrement, et qui fait d'un ogre redouté, d'un prédateur redoutable, un petit vieillard en déambulateur, ça c'était Harvey Weinstein hier en arrivant au tribunal, qui fait aussi que les femmes, elles, se mettent debout et prennent, sinon le pouvoir, du moins la caméra, le nombre de réalisatrices de blockbusters a doublé en un an aux États-Unis. On reste à 10 tout petit pourcent, mais le mouvement est en marche, alors elles enfoncent le pied dans la porte, la parole, elles l'ont prise et ne la lâchent pas. Écoutez, l'actrice Michelle Williams, dimanche au Golden Globes, après avoir rappelé le droit des femmes à disposer de leur corps, elle enchaîne.
Choisir quand je veux des enfants et avec qui, et que je me sente soutenue et que nos vies soient équilibrées, en sachant, comme toutes les mères, que la balance doit pencher en faveur des enfants. Je sais que mes choix peuvent être différents des vôtres, mais Dieu merci, nous vivons dans un pays libre et libre de vivre sa foi. Et vous êtes libre de vivre la vôtre. Donc, femmes âgées de 18 à 118 ans, quand il sera temps de voter, faites-le s'il vous plaît, dans votre intérêt. C'est ce que les hommes font depuis des années. C'est pourquoi le monde leur ressemble tellement. C'est ce que les hommes font depuis des années. Alors n'oubliez pas que nous sommes le plus grand corps électoral de ce pays et faisons en sorte qu'il nous ressemble.
Pour mémoire, ce discours intervient à un moment où les mouvements anti-IVG ont repris une belle vigueur hein, aux États-Unis. On a une dizaine d'États à adopter des législations très restrictives sur l'avortement. Dernière en date, l'Ohio, ajoutant une clause début décembre à son projet de loi sur l'IVG, le Congrès local exige maintenant des médecins qu'ils fassent tout, mais tout, hein, pour sauver la vie d'un fœtus. Il leur faudrait notamment réimplanter les embryons dans l'utérus de la mère en cas de grossesse extra-utérine, sous peine d'être inculpé de meurtre. Les contrevenants risqueraient jusqu'à 15 ans de prison. Si, si, on en est là.
Allez, on en est là et on n'est pas très bien si l'on en croit les derniers chiffres des Nations Unies.
L'ONU mesure chaque année l'écart mondial entre les sexes. 4 critères sont pris en compte, la santé, l'éducation, le travail et la politique. En 2019, les hommes et les femmes sont à 68% d'écart, soit un point de moins que l'an dernier. C'est bien Fabienne, hein, ça progresse à vue de nez. Si on continue comme ça, hommes et femmes finiront bien par être égaux en droit dans 99 ans. Allez, bonne année.
Allez, 99 ans, c'est le chiffre officiel.
C'est donc, ça, 99,5.
Mais il paraît qu'on vivra tous très vieux. Allez, Julia, à la semaine prochaine.
Fabienne Sintès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, c'est une première en Europe qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. En fin de matinée, donc tout à l'heure, le gouvernement autrichien a prêté serment. Et c'est un gouvernement de coalition entre la droite et les écologistes. Une alliance improbable en apparence, mais pour vous, il faut la prendre très au sérieux. C'est un laboratoire prémonitoire et c'est votre Monde à l'envers.
Un peu d'allemand, allez, pour commencer. Es ist möglich, das Klima und die Grenzen zu schützen. Traduction, il est tout à fait possible de protéger à la fois le climat et les frontières. Cette formule, c'est celle du chancelier autrichien Sébastien Kurz qui ajoute « Nous allons concilier le meilleur des deux mondes parce que ce sont les deux enjeux majeurs de notre temps, l'environnement et l'immigration. » L'alliance de la droite et des écologistes, en effet, c'est à première vue contre-intuitif. La presse autrichienne qualifie cela, je cite, « d'exotique » et a fortiori vu de France où les Verts s'allient spontanément avec la gauche. Une telle coalition a tout de la carpe et du lapin. En plus, c'est un virage à 180 degrés quand même pour Kurz, puisque dans son mandat précédent, il avait gouverné avec l'extrême droite et fait adopter des mesures radicales sur l'immigration. Il y a un an encore, il était d'ailleurs perçu comme le symbole au cœur de l'Europe d'une évolution inexorable du continent vers ce type de coalition droite-extrême droite. Un scandale de corruption est passé par là, faisant imploser la droite extrême. Nouvelles élections à l'automne dernier, voilà le résultat. Alors bien sûr, ça ressemble d'abord à un coup tactique. Le jeune Sébastien Kurz, 33 ans, est un expert en la matière. Il a senti la question environnementale monter pendant la campagne. Et avec l'appui des écologistes, 14% des voix, son parti conservateur, le VP, 37%, possède une majorité au Parlement. Mais bon, cette loi arithmétique a quand même pour résultat de créer un laboratoire politique sans précédent.
Sauf si c'est juste une apparence et une coquille vide dans les fêtes, en fait, Jean-Marc.
Oui, c'est vrai, mais c'est là aussi que réside la surprise. La coquille n'est pas totalement vide. Certes, le grand parti conservateur de Kurz conserve 10 portefeuilles ministériels contre seulement 4 aux écologistes, mais le nouveau gouvernement est rajeuni, féminisé, plus de femmes que d'hommes. Les Verts décrochent la vice-chancellerie pour leur leader Werner Kogler, le ministère de la Justice et un énorme ministère de l'écologie confié à l'ancienne responsable d'une grosse ONG. Le tout avec, et c'est là l'important, un programme ambitieux à la clé. Parmi les objectifs fixés, parvenir à la neutralité carbone en 2040, 10 ans avant l'échéance établie par l'Union européenne. Consommer 100% d'énergie renouvelable en 2030, c'est dans 10 ans, demain, développer une politique de transport vert, vaste plan pour le vélo en ville, taxation accrue pour les billets d'avion, carte à 3 euros par jour pour utiliser tous les transports en commun partout dans le pays. Et enfin, engagement cher aux écologistes, de meilleures garanties sur la transparence de la vie publique. En plus, localement, en Autriche, il y a déjà des expériences de coalition droite-vert. Et puis le président autrichien, Alexander Van der Bellen, est lui aussi un écologiste. Bref, tout ça finit par former un paysage cohérent.
Mais alors, en quoi ce type de laboratoire pourrait se propager ailleurs en Europe, hein?
Bon, d'abord, il faut préciser que ça existe déjà un peu au nord de l'Europe, dans les pays baltes, avec un parti qui se revendique écolocentriste, l'Union des paysans et des verts. Il est au pouvoir en Lituanie. Il a été récemment en Lettonie. En Europe occidentale, cette fois, une arrivée des écologistes au pouvoir est possible en Belgique, même si là, l'alliance s'y ferait plus naturellement avec la gauche qu'avec la droite. Et puis surtout, il y a l'Allemagne. L'hypothèse d'une alliance droite-écologiste n'y est pas totalement farfelue. Angela Merkel, on sait, est en fin de règne. Son parti, la CDU de centre-droit, stagne autour de 30%. Et surtout, les Verts ne cessent de progresser. Entre 21 et 22% des voix dans les sondages d'intention de vote, ils sont désormais la deuxième force du pays. Dans certains Länder, certaines régions, Bade-Württemberg, ils gouvernent déjà en coalition avec la droite. De là, imaginez leur chef, Robert Habeck, Annalena Baerbock, se retrouver dans un gouvernement de coalition, voire à la chancellerie. On n'est plus totalement dans la politique fiction. L'Autrichien Sébastien Kurz dit voir dans son alliance droite-écologiste un modèle pour l'Europe. Ça reste un pari improbable, mais ce n'est plus complètement incongru.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve demain. Nous, on reste ensemble, comme tous les soirs, avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.